Merci beaucoup. Alors, je vais commencer mon exposé par des remerciements, moi aussi. Merci beaucoup à Denis Baranger et à Elodie Djordjevic de m'avoir invité à parler de ces questions, et en particulier de Cook, et également pour leur aide dans la préparation de mon intervention. Et puis aussi un grand merci à Thibaut Desmoulins et Sabina Tortorella pour leur aide dans la diffusion du texte de Berman notamment. Donc merci beaucoup, et puis pardon aussi par avance pour l'aspect un petit peu inabouti de ce travail, parce que en travaillant sur cette question, j'ai été confrontée peut-être à plus de questions que ce que je pensais. Donc voilà, j'espère apporter en tout cas ma pierre à la réflexion, ou à contribuer en tout cas à la réflexion initiée par ce programme de recherche. Ce que je propose dans mon exposé, je vais partager mon écran donc à travers cet exposé que j'ai intitulé Cook, un philosophe malgré lui, c'est peut-être de proposer une version en quelque sorte institutionnelle du conflit, une incarnation juridique et même processuelle du conflit entre, je crois, deux philosophies du droit et qui se manifestent dans un certain nombre d'affaires concrètes que je vais essayer de présenter aujourd'hui. Alors, Lorsqu'on se réfère aux ouvrages sur l'histoire de la pensée juridique anglo-américaine, nombre d'entre eux évoquent une philosophie de la common law, et c'est le cas par exemple de Postema, c'est le cas également par exemple de Michael Loban, quand on ouvre ces ouvrages, on constate que toute histoire de la philosophie du droit en Angleterre, en tout cas un certain type de philosophie du droit, commence nécessairement avec Cook. Certains auteurs peuvent identifier des précurseurs comme Bracton, comme Fortescue, comme Saint-Germain ou encore Hooker, comme Berman le fait par exemple dans l'extrait qu'on a diffusé. Mais on a quand même l'impression que la véritable histoire de la philosophie de la common law commence avec Cook. Or, Cook est souvent présenté comme la caricature même du juriste, et c'est un petit peu même l'impression que laissent certains textes de Hobbes, et un juriste donc qui a d'abord été Attorney General, puis Chief Justice, hein, Chief Justice, de 1606 à 1616, un personnage qui n'est connu d'ailleurs très souvent que, alors, connu par les juristes, mais bien moins par les autres, alors par les philosophes et par les philosophes du droit en particulier, mais c'est quand même un auteur qui est principalement connu des juristes, et il est donc souvent présenté comme quelqu'un de pugnace, mais d'assez, qui a l'air quand même assez obtus, et défenseur surtout de cette poussiéreuse et archaïque common law médiévale. Si Cook est considéré par les historiens de la pensée juridique comme étant celui qui a formulé le plus clairement une philosophie de la common law, ou en tout cas un certain nombre de ces, je ne sais pas comment dire, de ces pas de ses postulats, mais de ses fondements, c'est parce qu'il a dû défendre la common law pendant sa carrière, concrètement, de juriste. Il l'a fait tout au long de sa vie, d'ailleurs parfois de manière assez virulente, en s'opposant principalement à trois personnages. Alors, il n'y a pas évidemment que trois personnages, mais j'ai retenu ceux qui incarnaient des figures que j'estimais des figures de philosophie qui n'étaient pas précisément celles de Cook. Donc, il s'oppose principalement à trois personnages. Bacon, le philosophe juriste, hein, qui, alors pour le coup, lui, est plutôt connu comme philosophe que comme juriste. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand on rapporte cela à Cook. Donc, Bacon, Elsner et Jacques Ier. Alors, ces conflits avec ces trois personnages que Cook a eu, il renvoie en fait à trois conflits également principaux. Le premier, si on veut schématiser un peu les choses pour faire un point de contexte, le premier face à Jacques Ier, principalement contre ce qu'on pourrait résumer par la formule de raison d'État. Donc pour différentes raisons, hein, lorsque Jacques Ier est arrivé au pouvoir en 1603, il a immédiatement suscité beaucoup de craintes chez les juristes, et en particulier chez les juristes de common law, par exemple parce que l'un de ses premiers actes a été de prononcer l'exécution sommaire d'un voleur sans procéder aux formes à l'habeas corpus et aux formes de la grande charte, hein, ou du process of law. Donc, c'est une première, un premier exemple dans le cadre de ce conflit, ou en tout cas des raisons qui ont suscité des craintes chez les common lawyers, et donc en particulier chez Cook. Ensuite, il a aussi beaucoup effrayé par son projet d'unification des royaumes, dont l'une des formulations a été produite par Bacon, l'un des projets d'unification des royaumes de l'Écosse et de l'Angleterre, ce qui allait signifier que la common law allait être éventuellement abrogée. Donc, encore une fois, source de crainte pour les common lawyers. Et puis, plus globalement, Jacques Ier, et ça, c'était développé dans l'extrait de Berman, Jacques Ier est l'auteur d'un ouvrage, « The True Laws of Free Monarchies », qui, donc, bien sûr, fait état d'une théorie de l'absolutisme de droit divin, avec comme fondement juridique la prérogative royale, et bien sûr, une théorie de l'absolutisme de droit divin, selon laquelle le monarque ne rendait compte qu'à Dieu. Donc, Cook se bat aussi contre une certaine interprétation de la prérogative, cette fameuse prérogative absolue. Et ce qui est assez peut-être intéressant comme élément de contexte à ajouter sur Cook, c'est que finalement, et c'est Baker dans l'un de ses derniers ouvrages qui le met en avant, c'est que finalement, Cook, parce qu'on pourrait se demander, après tout, Cook avait beaucoup à perdre dans la défense de la common law, dans toutes ses oppositions, notamment à Jacques Ier, et Baker, l'historien John Baker, lui explique cela par la fidélité au serment qu'il avait fait à Elizabeth quand il était devenu Attorney General, et qui lui avait fait jurer de faire en sorte qu'elle-même respecte sa prérogative, c'est-à-dire sa prérogative ordinaire. Donc, son opiniâtreté pourrait être expliquée par sa volonté, hein, sa loyauté, cette fidélité à ce serment, et derrière, bien sûr, une certaine idée de la justice. Donc ça, c'est le premier ensemble de conflits. Le second, donc, contre Bacon, une certaine forme de codification du droit. Donc là, on rejoint le débat sur le droit et la science, que je ne vais pas évoquer, évidemment. Le troisième série de conflits contre l'equity, sur laquelle je vais insister dans le cadre de cette présentation, et contre ce fameux chancelier Elsmer, dont je vais reparler, qui estimait, pour le dire rapidement, que l'equity était supérieure à la common law. Et je vais bien sûr donner des détails un peu plus bas. Et face à ces trois personnages, enfin, dans le cadre de cette série de conflits, face à Jacques Ier, Elsmer et Bacon, qui sont globalement alliés, pas contre Cook, mais en tout cas qui font partie du camp opposé, il y a des nuances à apporter, évidemment. Systématiquement, Cook oppose la common law. Hein. Face à l'absolutisme du droit divin, il va opposer la préexistence de la common law. Face à la juridiction des cours d'equity et de la chancellerie, il va aussi opposer notamment la préexistence de la common law, et face à Bacon et à son projet de codification de la common law, il va lui opposer la fameuse raison artificielle, sur laquelle, à mon avis, on aura largement le temps de revenir également. Donc, pour résumer, dans le cadre de ce passage entre le XVIe et le XVIIe siècle, c'est vraiment un moment de transition. C'est pour ça que le texte de Berman me paraissait aussi intéressant pour éclairer ce contexte. Et très globalement, si on veut résumer les choses, Cook, lui, il défend une certaine rationalité de la common law. Il va défendre la rationalité de la common law à travers différents moyens, notamment l'idée de sa préexistence. Et il va défendre la rationalité de la common law contre d'autres formes de rationalité. Et à cette fin, il me semble qu'il a bien sûr mobilisé un certain nombre de sources juridiques, mais également philosophiques, qui lui ont permis formuler finalement cette idéologie de la common law, cette philosophie de la common law. Je sais jamais comment. Voilà, je pense que c'est une question qui se pose également. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à travers la défense de cette idéologie de la common law, Cook a pour cible, en tout cas en partie, l'exercice arbitraire du pouvoir, mais en aucun cas la monarchie en tant que telle. C'est-à-dire que Cook est un monarchiste, il s'oppose à l'absolutisme du droit divin, mais comme on trouve parfois cette idée, on a l'impression, hein, que Cook serait un grand défenseur, un, presque un fondateur de la démocratie. Pas du tout, hein. Il défend la monarchie, c'est un monarchiste, et ça, il ne remet jamais cela en cause. Donc voilà, à partir de là, il y a un certain nombre de questions, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Alors là, il y en a une que j'ai déjà évoquée, qui est, est-ce qu'il s'agit véritablement d'une philosophie de la common law? Je pense que voilà, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il a été un philosophe malgré lui? Donc c'est la question principale, c'est-à-dire est-ce que finalement est-ce qu'il estimait que droit et philosophie étaient en opposition? Personnellement, je ne le pense pas, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il a participé simplement à la cristallisation de deux camps rivaux de philosophie du droit, ce qui est aussi possible? Qu'est-ce qu'on doit faire aussi du contexte religieux, hein, parce qu'il y a quand même aussi, tout ça se fait sur toile de fond de conflits religieux. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions qui se posent, et en tout cas, je pense qu'il y a un intérêt particulier de cet épisode de l'histoire de la philosophie du droit en Angleterre, qui montre peut-être quelque chose d'un peu évident. Et là, je rejoins une question qui avait été posée par Elodie lors de la séance de présentation, qui est finalement, Cook va revendiquer l'autonomie du droit, ici l'autonomie de la common law, par rapport à la théologie, et aussi une certaine forme d'autonomie nationale. Cook le fait en termes, me semble-t-il, philosophiques. Donc l'affirmation de l'autonomie de la common law par rapport au pouvoir se fait, je crois, par Cook dans des termes qui sont juridiques, mais qui sont aussi très largement philosophiques. Et dans le cadre de cette séance de séminaire, pour que, bon, comme on est à distance, j'ai décidé donc de me focaliser sur l'opposition entre les cours de common law et les cours de la chancellerie, donc entre le chancelier Elsmer en particulier et Cook. Et sur une affaire en particulier que je vais détailler un peu plus bas. Quelques explications simplement sur cette opposition entre les cours de common law et la cour de chancellerie, parce que, et entre la common law et l'equity, parce que c'est aussi un thème qu'on retrouve chez Hobbes. Alors au XVIIe siècle et depuis le XVe siècle, il existe à côté des cours de common law, hein, qui sont le King's Bench et les Common Pleas, des juridictions qui ne sont pas des cours de common law, donc qui n'administrent pas la common law, et qui sont issues, qui ont été créées par les Tudors pour beaucoup d'entre elles, et qui sont ce qu'on appelle des cours de prérogatives. Donc il y a des cours de prérogatives, des cours ecclésiastiques aussi qui existaient évidemment. Et parmi ces cours qui apparaissent alors avant les Tudors pour le coup, pour la chancellerie, ben, il y a la cour de la chancellerie, et puis principalement qui s'est formée à partir du conseil du roi. Et puis petit à petit, il y a des cours inférieurs à celles de la cour de la chancellerie qui sont apparues, qui administrent également l'equity. C'est le cas de la court of request et de la court of exchequer. Donc coexistent plusieurs types de cours en Angleterre au XVIIe siècle, des cours, alors, beaucoup. Et celles qui vont m'intéresser ici sont principalement celles de common law, et donc les cours royales, et celles de la chancellerie qui tranche les enfin, ça aussi on pourrait discuter du vocabulaire, qui tranche les affaires en tout cas selon l'equity. Et il y a des différences de procédure, bien sûr. Par exemple, devant les juridictions d'equity, il n'y a pas de jury, il n'y a pas d'intervention de jury. La procédure devant les cours d'equity est beaucoup plus écrite que devant les cours de common law. Donc ces cours d'equity, elles coexistent avec les cours de common law, et elles sont à l'origine chargées d'appliquer, elles sont l'expression de la conscience du roi. La conscience, c'est aussi une notion sur laquelle je reviendrai un peu plus bas. Donc, l'idée de ces cours d'equity, pardon, c'est qui sont chapeautés, entre guillemets, c'est très mal dit, mais l'autorité qui exerce, enfin, qui tranche ces conflits, l'autorité ultime, c'est le chancelier, hein, mais bien sûr, qui tire son pouvoir du roi, mais donc ce chancelier, il a le pouvoir de corriger l'application du droit positif lorsque celui-ci parvient à des solutions injustes, et il applique, hein, la loi naturelle et la conscience. Je vais revenir aussi sur cela, mais je voulais simplement faire un petit point de contexte pour que ce soit clair. Et évidemment, au XVIIe siècle, ce pouvoir que semble avoir les cours de chancellerie, et en particulier le chancelier, donc ce pouvoir qu'il semble avoir de revenir sur des jugements rendus en common law, et donc d'avoir la prééminence sur les cours de common law, c'est évidemment quelque chose que Cook n'est pas du tout prêt à accepter. Donc, pour prendre un exemple, pour partir d'un exemple et illustrer ce conflit entre ce que je pense être deux philosophies du droit et qui ont permis en même temps à Cook de formuler en fait un certain nombre de traits fondamentaux de la philosophie de la common law, je propose de me concentrer sur une affaire assez connu en tout cas des historiens du droit anglais du XVIIe, qui est le cas du comte d'Oxford, donc l'affaire du comte d'Oxford, qui est l'une des grandes affaires qui ont opposé l'equity et la common law entre 1614 et 1616. Et ce que je voudrais montrer, c'est que c'est vraiment l'incarnation, la matérialisation d'une lutte pour le dernier ressort, pour le dernier mot, pour la dénomination, la revendication en tout cas de la dénomination du monde évoquée par Denis Barranger lors de la séance d'ouverture. Il me semble que c'est très illustratif de ça, je crois. C'est ultimement, me semble-t-il, aussi un conflit qui est interne à la justice, et c'est une lutte pour la définition du droit. Donc, je vais procéder de manière très, très simple, hein. Je vais d'abord présenter rapidement l'affaire en essayant de ne pas y passer trop de temps, puis les arguments en présence, les arguments qu'on trouve dans cette affaire du Earl of Oxford. Ce sera le deuxième temps de mon exposé. Troisième temps de mon exposé, je vais essayer de montrer quels sont les différents sens attribués par les deux protagonistes, par Cook et par Elsmer, des différents termes qui sont employés, la justice, la conscience, justement, etc., etc. Ce sera mon troisième temps, et le quatrième temps, essayer de montrer que c'est bien l'affrontement de deux philosophies du droit, et que Cook s'appuie lui également sur une vraie philosophie du droit. Donc, si je commence à présenter cette affaire, alors très, très grossièrement, parce que je ne suis pas historienne du droit, et donc j'ai vraiment fait de mon mieux. C'est globalement une question qui concerne une question d'enrichissement sans cause. Donc concrètement, il s'agissait d'un terrain qui appartenait à j'ai mis Collège de la Madeleine, donc au Magdalen College, qui comprenait donc un jardin, un couvent, etc., et qui avait été transféré par son propriétaire à la reine Elisabeth Ier, alors même qu'une loi avait été adoptée en 1671 et qui interdisait en fait ce type de transfert pour plus de 21 ans. C'était pour lutter contre les fraudes sur les biens ecclésiastiques. D'ailleurs, cette loi, elle a été abrogée en 1998, donc elle a eu une vie longue, loi qui interdisait que ce type de transfert puisse durer plus de 21 ans ou trois vies, comme il est dit dans la loi, pour lutter contre les fraudes. On a un premier transfert du propriétaire vers la reine Elisabeth Ier, puis transfert de la reine au comte d'Oxford, mais au-delà évidemment de la période de 21 ans. Et cet Oxford, là je simplifie à outrance, il y a plein d'autres choses mais qui ne sont pas pertinentes pour aujourd'hui. Donc Oxford fait construire sur ce terrain plus de 130 maisons, et il en loue une à un Warren, et simultanément, le maître du collège, pensant que de toute façon le transfert avait été illégal, en profite pour louer la même maison à Smith, en considérant donc que le transfert précédent de toute façon était nul puisqu'il était contraire à la loi de 1571. Donc voilà pour la question. Alors c'est la question qui se posait, et évidemment la question sur le fond, c'est de savoir qui est le véritable propriétaire de cette maison et qui détient un bail valable. L'affaire se retrouve devant le jury qui donne raison à Oxford et qui se prononce contre Smith et alors Gouge, je vais dire Gouge, mais je pense que ça dit Gouge en réalité, mais je vais le prononcer à la française. Devant le jury, c'est la première phase. Puis l'affaire va devant la cour de common law, donc qui est la cour de King's Bench ici en l'occurrence. Où officie Cook, donc cour qui se prononce contre, à l'inverse, hein, qui renverse la décision du jury et qui donne raison à l'ami Gouge, renverse la décision du jury et le plaignant, donc Oxford, porte l'affaire devant le chancelier et le défendeur, donc toujours Gouge, ne se présente pas devant la cour de la chancellerie, donc où officie là pour le coup le chancelier Elsmer, donc le grand ennemi de Cook, et donc le plaignant Oxford porte l'affaire devant la chancellerie, le défenseur, donc pour qu'elle soit tranchée en equity, hein, pour que le chancelier revienne sur la décision de la cour de common law, le défendeur ne se présente pas sur le fondement qu'il avait déjà eu un jugement en common law et que de toute façon pour lui le titre d'Oxford était nul par application de la loi. Ce qui se passe, c'est que la chancellerie ordonne au défendeur, donc à Gouge, de répondre, et celui-ci refuse. Il est donc condamné, il est donc envoyé en prison pour ne pas s'être présenté devant la chancellerie, et le plaignant, Oxford, est autorisé à poursuivre devant la chancellerie en dépit de cette absence de réponse, et Elsner lui tranche en faveur d'Oxford, donc contre Gouge et contre Smith. Et comme eux sont en prison, il demande un writ d'habeas corpus à la cour de common law, au King's Bench, la raison pour laquelle ils sont emprisonnés parvient à la cour, et les juges à la cour de common law réalisent qu'ils sont enfermés en raison d'un ordre de la chancellerie, et eux considèrent que cette cause n'est pas valable, donc ils ordonnent la libération de ces deux, enfin de Gouge et du locataire et de Smith, et ils considèrent que cet emprisonnement n'est pas valable parce qu'il était notamment contraire à la loi sur les choses jugées le res judicata statute, donc 2403, qu'il soit ordonné et établi qu'après un jugement rendu par les cours de notre souverain, les parties et leurs héritiers soient en paix jusqu'à ce que le jugement soit défait par attaint ou par error, c'est-à-dire des procédures particulières en common law, mais dont les historiens disent qu'elles étaient largement inefficaces. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette loi ne prévoit pas qu'un cas puisse être rouvert sur le fondement de l'equity. Donc, le but de la loi en question, ici, c'était de mettre un terme aux affaires qui, potentiellement, en fait, pouvaient être rouvertes à l'infini, du coup. Donc, c'était l'objectif de cette loi, et c'est sur le fondement de cette loi que les juges au King's Bench refusent, ou en tout cas considèrent qu'il faut libérer Gouge et Smith. Donc, à partir de là, deux solutions rivales, deux vérités rivales possibles. En common law, par application de la loi, le bail de Warren est nul parce que le transfert d'Oxford était nul, contraire à la loi. En equity, solution opposée. Oxford doit pouvoir retirer les fruits de son investissement. Le bail de Warren doit être considéré comme valable. Donc, deux solutions opposées, l'une sur le fondement de la common law et l'autre sur le fondement de l'equity. Le fin mot de l'histoire est que Cook a fait profil bas. C'est ce qu'on lui a conseillé, expliquent les historiens. Donc, il décide de calmer le jeu et finalement, de reporter au terme suivant le règlement du litige. Et ce litige, finalement, il a été tranché par Jacques Ier, parce que les deux hommes ne cessaient justement de s'affronter dans des affaires de ce type. Donc ça, c'est pour l'affaire, et ça me paraît intéressant, en fait, d'avoir le contexte. Ça permet de mieux fixer, les arguments qui sont développés par la suite. Donc, les arguments en présence d'Elsmer et de Cook. Alors, je vais commencer par Elsmer, et je vais aller assez rapidement. Il y a six arguments principaux qui sont développés par le chancelier pour soutenir sa position. Donc, argument, et puis bien sûr, j'exposerai ensuite la position de Cook. Donc, argument numéro un, le pouvoir de la chancellerie est supérieur à celui de la common law, parce que le chancelier siège en chancellerie, et quand il siège, il a un pouvoir absolu et incontrôlable. Alors, j'ai transcrit directement l'anglais en français, hein, c'est incontrôlable, donc incontrôlable, alors que, nous dit Elsmer, les juges de common law doivent juger selon le pouvoir ordinaire, strict et limité. Donc ça, c'est argument numéro un, supériorité de la chancellerie, du droit et du pouvoir de la chancellerie sur celui de la common law. Deuxième argument numéro deux, sur la fonction du droit, chez Elsmer, le droit a une fonction morale au bas mot, puisque dans le cas présent, il s'agit corriger, hein, de redresser des consciences corrompues. Il s'agit vraiment donc de corriger des consciences, de redresser des torts, parce qu'il y a effectivement enrichissement sans cause. Deuxième argument numéro deux. Argument numéro trois. Elsmer explique au soutien de sa position qu'en fait, trois sources de droit concordent, donc la loi de Dieu, la loi de la raison et the law of the land, donc le droit, la common law, dans son ensemble. Et j'y reviendrai, mais ce qui est intéressant ici, c'est aussi ce rejet finalement de l'unicité du droit et du monopole de la common law pour régler les conflits. Argument numéro 4, et ça c'est assez intéressant, il retourne l'argument du fameux Bonham's Case de 1610 contre Cook, en expliquant que finalement ce que dit Cook dans cet arrêt, qui est souvent cité comme étant une première expression, alors c'est discutable, une première expression du judicial review. Mais en fait, ce que fait Elsmer, c'est qu'il retourne l'argument contre Cook en disant que, en gros, ce que dit Cook dans cette affaire, c'est que les statutes ne sont pas si sacrés qu'ils ne puissent être examinés sous l'angle de l'equity. Donc, au lieu de reprendre l'argument de Cook qui est de dire supériorité de la common law sur le droit positif, en quelque sorte. Ici, Elsmer retourne l'argument en disant ce que dit Cook, en fait, ici, quand il se réfère à la raison, quand il se réfère au juste, etc., c'est en réalité l'equity. C'est qu'il considère que, finalement, le droit positif peut très largement faire l'objet d'une interprétation en equity et qu'on peut revenir sur ce droit positif en equity, donc elle est supérieure. Et puis ensuite, il donne évidemment, argument numéro 5, une interprétation du statut de 1403 comme ne devant pas s'appliquer au cours de la chancellerie, et qu'elles auraient tout à fait le droit de revenir sur une affaire tranchée en common law. Et puis, argument numéro 6, qui me paraissait aussi assez, assez centrale. On a une redéfinition de la justice par Elsner. Alors, j'ai redéfinition parce que j'adapte le point de vue de Cook, mais en fait, on pourrait très bien dire définition tout court. Donc, qu'il y a sur la diapositive ici, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il considère. Il considère, et ça, du point de vue des common lawyers, c'est assez, assez intéressant, que l'équité hein, et la conscience font partie, en tout cas sont le droit du pays, ou sont au moins une expression du droit du pays, et que le juste commun, hein, la traduction mériterait, je pense, d'être améliorée, mais en tout cas que le juste commun ne signifie pas tant le juste entendu strictement, c'est-à-dire comme application du droit, nous dit-il, l'accomplissement du juste conformément à la conscience. Donc, sixième argument fondé sur une autre conception, en tout cas une redéfinition de la justice. Du côté de Cook, il y a beaucoup moins d'arguments, mais ils sont beaucoup plus radicaux, en fait, dans l'affaire qui nous intéresse depuis tout à l'heure. Cook répond en fait dans son jugement sur l'habeas corpus qu'ils ont déjà donné une solution, que cette solution est juste dans le recueil, dans la transcription de cette affaire. On a donc, c'est l'extrait suivant, hein, et c'est Cook qui parle, « S'ils ne produisent pas un autre bill entre cette solution, donc ici il parle de la chancellerie, de la cour de la chancellerie qui rend des bills, entre cette solution et vendredi prochain, alors je devrais faire selon ma conscience, et entre-temps, nous nous fonderons sur cela, et après cela, nous agirons selon nos consciences, etc. etc. » Et il explique qu'il ne voit pas pourquoi on devrait aller devant la chancellerie, étant donné qu'en droit, on a tout à fait la solution pour trancher l'affaire. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que, et on pourra peut-être y revenir dans la discussion tout à l'heure, c'est que, en fait, évidemment, ici, c'est ironique, je crois. Cook explique que finalement, la conscience et avec elle l'equity, finalement, apparaît dans sa citation ici comme quelque chose d'arbitraire, finalement, que c'est une espèce de. On a l'impression qu'il se moque de cela. En disant, puisque bah, moi aussi, je vais faire jouer ma conscience, et puis on va tous faire selon notre conscience. Et puis voilà, alors c'est quand même, à mon sens, l'expression d'une qui pense que c'est de l'arbitraire, ou qu'il pense, ou en tout cas qu'il le dit. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que précisément, ça n'est pas ce qu'est historiquement l'equity à ce moment-là. L'equity à ce moment-là, au début du XVIIe, c'est déjà un corps de droit structuré, avec des solutions tout à fait stables, et qui, en fait, est une cour qui, précisément, ne rend pas des décisions fondées sur l'arbitraire. Il y a des règles déjà qui sont établies, une certaine constance dans les solutions, et c'est déjà, en fait, un corps de droit. Au même titre que alors peut-être pas aussi développé que la common law, qui est toujours dépendant de ce qui se passe en common law, mais qui est en tout cas une série de solutions qui ne sont pas fondées sur l'arbitraire, qui sont clairement structurées et qui sont administrées donc, par des cours selon des règles bien précises. Et en fait, ce que Cook fait ici, c'est bien de refuser de reconnaître que l'equity est du droit, tout simplement. Donc, il refuse de reconnaître que l'equity est du droit, c'est l'expression d'un arbitraire, et donc il refuse ultimement également cette idée que certaines décisions, parfois, pourraient être fondées sur du droit naturel, en plus du droit canonique et de la théologie qui inspire très largement les solutions en equity et même chose pour le droit romain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Elsner, dans cette affaire, en fait, l'un de ses arguments, c'est aussi d'appliquer le deutéronome. Il applique le deutéronome en disant que c'est Oxford qui doit l'emporter, puisque selon le droit de Dieu, je le cite, « celui qui construit une maison doit l'habiter et celui qui plante une vigne doit en recueillir les fruits, etc. etc. » Donc, premier argument de Cook, dénier tout simplement, refuser que l'equity soit un corps de droit au même titre que la common law, parce que pour lui, c'est l'expression d'un arbitraire. Et puis, deuxième argument dont on a l'impression qu'il est un peu l'argument de la dernière chance, entre guillemets, eh bien, c'est Doddridge qui le formule toujours dans le même texte, qui est, et il explique, hein, de toute manière, nous irions tout droit à la ruine de la common law si les jugements rendus ici devaient être remis en cause par les cours d'equity. Donc clairement, la common law est menacée et Elsner le sait très bien. Une des explications, c'est que l'equity rend des solutions qui peuvent être considérées comme plus favorables que la common law. Donc, il y a effectivement une menace qui est réelle. Alors, le troisième temps de mon exposé, c'est une espèce de synthèse en fait de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on a une lutte pour le sens des mots et surtout de qui doit avoir le dernier mot. Est-ce que c'est Elsner et sa philosophie du droit ou est-ce que c'est Cook et la common law et la philosophie qui la sous-tend? Donc ici, j'ai fait un tableau synthétique qui vaut ce qui vaut, mais c'était simplement pour avoir un support visuel. Donc on peut distinguer, on peut prendre quatre exemples ici, à partir des arguments que je viens d'énumérer. Par exemple, sur la conscience, alors c'était assez clair, hein, pour Elsner, c'est un corps de droit, c'est l'equity, hein, qui est forgé à partir d'un certain nombre de règles. Pour Cook, dans cette affaire-là, en tout cas, c'est, je pense, clairement, pour lui, une expression d'arbitraire. Le juste commun, alors je l'ai traduit comme ça, mais c'est common rights. Pour Elsner, hein, c'est l'accomplissement du droit selon l'equity, selon la conscience, justement. Pour Cook, c'est la common law. La plus haute fonction du droit, ou quelle est la fonction de la justice, pour Elsner, conformément à son office, hein, redresser les consciences, c'est peut-être maladroit, mais en tout cas, s'adresser aux consciences, c'est une justice qui s'adresse aux consciences et qui vient, bien sûr, l'influence théologique. Redresser les injustices au sens de l'équité. Pour Cook, bien sûr, découvrir et appliquer la common law, hein, la justice, c'est ça, on y reviendra aussi, à mon avis. Et puis, il y a cette question de l'unité du droit que moi, je trouve particulièrement intéressante, parce que je vais revenir, quand on s'intéresse à Cook, pour Elsner, il y a, et comme pour Bacon aussi, hein, dans ses ouvrages, on voit bien que ce sont des juristes, philosophes, qui acceptent cette idée qu'il y a plusieurs sources au sein de la common law, et notamment l'equity, bien sûr, avec l'equity est supérieur, mais en tout cas, il peut y avoir plusieurs sources de droit. Donc, il n'y a pas vraiment d'unité de droit. On peut mobiliser plusieurs sources de droit équivalentes pour régler une question. C'est ce que nous dit Elsner dans son bill, dans son jugement. Il faut regarder la loi de Dieu, il faut regarder la loi de la raison, et puis qui n'est pas la common law, qui n'est pas le droit, enfin ce qu'on appellerait le droit positif. Donc il n'y a pas d'unité, alors que pour Cook, en général, c'est plutôt la common law dans son ensemble qui peut avoir différentes expressions, mais il va pas distinguer différentes sources, ou alors tel ou tel statute, ou alors, pour ça, il faut se référer à ces instituts et voir à quel point il n'a pas classé des sources de droit, en fait. Donc, il ne raisonne vraiment pas de cette manière-là. Il y a une profonde unité de la common law, et puis elle peut avoir différentes expressions, mais ce ne sont pas vraiment des sources du droit. Au contraire, j'y reviendrai. Donc voilà, si on veut faire une synthèse de ce que je viens de dire auparavant. Alors après, j'ai peut-être sur ça, je vais passer parce que l'heure tourne. Donc c'était simplement pour montrer qu'il y a des parallèles frappants entre les formules qui sont employées chez Elsner et chez Cook, par exemple sur qui parle. Une fois de plus, qui doit avoir le dernier mot? Donc l'equity, Elsner nous dit l'equity parle comme la loi de Dieu, mais vous voulez la réduire au silence. Écoute, dans un autre contexte, c'est une situation qui est connue, mais il aurait très bien pu l'utiliser dans ce cas-là. Je ne dirai rien, les registres parleront d'eux-mêmes. Donc je pense que quand on confronte ces deux citations, on a une idée assez nette de ce que peuvent être justement ces deux philosophies du droit, et je vais terminer par ça. Alors moi, je les ai appelés droit naturel et philosophie de la common law, et bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut discuter, hein. J'ai vraiment qualifié ça comme ça, enfin pas comme ça, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose peut-être qu'il faut discuter. Alors du côté d'Alsmer, je ne pense pas avoir besoin de m'étendre beaucoup parce qu'il s'agit bien sûr d'une conception de la philosophie, d'une philosophie du droit qui est très largement inspirée bien sûr de théologie, de droit canonique, de philosophie grecque aussi bien sûr, et de ce fameux dialogue de Saint-Germain, hein, le Doctor and Student, qui donc Saint-Germain qui est un des classiques du droit anglais, qui est celui qui a tenté de théoriser justement l'equity donc en 1532 dans son ouvrage. Donc c'est un dialogue aussi hein, entre un docteur and student, donc un docteur en divinité et un étudiant des lois d'Angleterre, et qui Saint-Germain qui est le premier et qui est celui qui a poussé le plus loin la théorisation de l'equity. Donc, qui l'a théorisé, mais qui a théorisé quelque chose qui ne correspondait pas à la pratique véritable de l'equity. Donc, il a essayé de lui donner un fondement, mais ça n'avait pas une visée descriptive. Et en fait, quand on lit Elsmer dans le cas de 1615, qui m'a intéressée aujourd'hui, on voit bien que c'est ce discours-là qu'il essaye de faire prévaloir Elsmer sur celui de la common law. Et donc, on a très largement la philosophie du droit naturel. Donc ici, on en a un extrait, hein, la raison, la raison révélée par la loi de la raison, la lumière naturelle de la raison, et puis ces droits naturels qui sont immuables et qui, justement, justifient que l'on puisse renverser une décision rendue par les cours de common law sur le fondement du droit positif. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé la philosophie du droit naturel, mais je pense qu'une fois de plus, il faudrait un petit peu nuancer et qualifier. Et puis, du côté de Cook, il y a différentes expressions assez qu'on retrouve dans les différents textes qu'il a pu écrire, dans ses reports, dans les instituts, dans les débats parlementaires également. L'idée, c'est de dire qu'il participe très largement à la formation d'une philosophie du droit, et tout se passe comme si, à mon sens, Cook devait répondre à la philosophie de l'equity par la philosophie de la common law. Je crois que si Cook à plusieurs reprises dans l'affaire qui nous intéresse mais également ailleurs et assez systématiquement redéfinit la common law comme étant le droit du pays ou comme étant le due process of law, comme étant l'héritage des sujets, etc. C'est notamment pour aller contre cette idée des sources du droit et bien sûr faire valoir que le droit est autonome, qu'il n'a pas de source, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'origine identifiable, on a oublié en fait time out of mind, hein, on a oublié ses origines, elles sont hors de notre portée, hors de portée de la mémoire, ce qui fait que la common law a une unité profonde, ce qui fait qu'elle est presque indivisible, qu'elle connaît différentes formes d'expression en tout cas, mais que on peut pas vraiment distinguer des sources. Alors l'idée, bien sûr, c'est de dire de comment on la comprend, comment on la découvre, cette common law. Alors évidemment par la raison artificielle. Donc il me semble là à travers l'étude ou à travers cette mobilisation entre guillemets de la raison artificielle qu'on peut déceler. En tout cas, ça vaudrait peut-être le coup d'approfondir une certaine la rhétorique humaniste. Et une certaine philosophie du langage, je pense qu'on pourrait faire ressortir ça, notamment peut-être chez Cook indirectement et chez Doddridge de manière plus claire, d'aller chercher, ça a été fait par Walters notamment, hein, donc cette idée qu'il y a un fond humaniste et notamment une influence des méthodes de Pierre de la Ramée sur les juristes qui engagent également une certaine philosophie morale et une certaine idée du langage, donc voilà pour les prémices de ce côté-là, hein, philosophique chez Cook. Et puis bien sûr il y a la philosophie, une philosophie, alors je ne sais pas si on peut dire une philosophie d'histoire, mais en tout cas ce que Berman appelle l'expression de l'école historique de la théorie du droit, ou du moins une certaine conception du temps, et cette idée que le passé est normatif, hein, que le passé est une finalité, c'est Berman qui formule les choses comme ça, et c'est ce que Cook a fait, pas directement dans l'affaire ici, mais parce qu'il voulait vraiment avoir le dernier mot dans cette affaire. Et quand il a écrit la quatrième partie de ses instituts en 1641, il est revenu sur cette question-là, et il est revenu sur l'apparition de la Cour de la Chancellerie, en disant qu'il était tout à fait d'accord, enfin, qu'elle existait bien depuis des temps immémoriaux, hein, comme tout le reste du système juridique anglais de l'époque, mais qu'en revanche, la compétence du chancelier en matière d'équité était bien plus récente qu'elle n'était pas immémoriale. Donc finalement, il a tenu à avoir le dernier mot, parce que Elsmere était un très vieux monsieur en 1615, 1616, et qu'il est décédé, si je ne dis pas de bêtises, en 1617 ou 1618. Donc Cook a tenu à, en tout cas, je crois, avoir le dernier mot. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et alors pour conclure cet exposé, il me semble qu'on peut dire qu'en luttant contre le chancelier, mais ça c'est un exemple, vous l'aurez compris, parmi d'autres, j'aurais pu prendre d'autres exemples, Cook a donné à la common law son autonomie, mais il a eu besoin pour ce faire, très souvent, vu les ennemis qu'il avait en face de lui, hein, d'emprunter le langage de ses ennemis, et notamment sa dimension morale et religieuse. Et à mon sens, il a quand même participé très largement à jeter des ponts entre la common law, entre la philosophie de la common law et d'autres philosophies du droit. Je pense qu'il a réinvesti une partie de l'héritage humaniste, mais spécifique, propre aux common lawyers, et qui n'était pas du tout, par exemple, partagé par un juriste, le juriste philosophe Bacon, par exemple, qui lui se situe aux antipodes de cela. Peut-être qu'avant, ce que j'essaie de faire ressortir, c'est que avant, ou en tout cas en même temps que l'affrontement de la science et de la vieille common law, il y a ce moment-là de conflit interne à la justice entre droit naturel et droit positif, dont je crois qu'il ressort, en tout cas chez Cook, on peut faire ressortir une philosophie du droit, mais une philosophie du droit positif, ou même une philosophie du droit positiviste. Voilà. Je vous remercie.